Le chef du mouvement islamique du Nigeria, le cheikh Ibrahim Zakzaki, dans un message à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat du commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, a déclaré que le chemin de la résistance, si Dieu le veut, se terminera avec l'émergence de l'imam Mahdi. Que la paix soit sur lui. Le cheikh Ibrahim Zakzaki a envoyé ce message ce lundi de condoléances à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat criminel et lâche du général Haj Rasem Soleimani, commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. Il a déclaré dans son message que la paix soit sur vous et la miséricorde soit sur vous. Nous sommes pour Dieu et nous retournerons à lui. Je chéris la mémoire de Sardar Rasem Soleimani, que Dieu lui fasse miséricorde. Je combats aussi le terrorisme. Ils ont montré leur vrai visage en tuant Rasem Soleimani parce qu'ils ont tué quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer d'éradiquer le terrorisme dans des pays comme l'Irak et la Syrie. Il a décrit le martyr Soleimani comme un stratège qui a déjoué tous les plans des ennemis, notamment en Syrie et en Irak, et a expliqué que ceux qui l'ont martyrisé sont les vrais terroristes, non seulement des partisans du terrorisme, mais aussi des assassins eux-mêmes au même rang qu'eux, et ils se sont reniés. Le chef du mouvement islamique du Nigeria, déclarant que les auteurs de l'assassinat de Sardar Soleimani ont montré leur vrai visage, a déclaré que l'incident du martyr de Sardar Soleimani nous a vraiment choqués et nous avons pleuré pour lui. Ils se sont trompés parce qu'ils ne savent pas que le sang d'un martyr crée la vie éternelle. C'est la même erreur que les oppresseurs ont commise avant vous, ceux qui ont commis l'erreur de massacrer Karbala, et cet incident est maintenant amplifié. Cheikh Zakzaki a poursuivi que c'est la même erreur qui a été commise par les sionistes dans le martyr de Seyed Abbas Mousavi, et ils pensaient qu'ils ont affaibli le Hezbollah, alors que le Hezbollah est beaucoup plus fort aujourd'hui et ils ont un autre chef nommé Seyed Hassan Nasrallah, que Dieu le protège. Ils ont commis la même erreur en assassinant donc Sardar Emom Mournier dans le sang, donc les a également pris pour cible et a lancé contre eux un mouvement qui ne sera jamais oublié. Il a déclaré que l'axe de la résistance ne peut être affaibli par l'assassinat et le martyre de ses dirigeants. Il a précisé que le Saint-Coran dit que le diable guide ses compagnons et que le complot du diable est faible. Les compagnons de Satan sont aussi faibles que le diable, alors ils répètent la même erreur plusieurs fois, et cette fois ils ont martyrisé Sardar Rasem Soleimani et son camarade Abu Mahdi al-Muhandes. Nous nous souviendrons toujours de ce combat pour la paix et la lutte contre le terrorisme, dont leur sang est beaucoup plus élevé maintenant. Même si nous ne pourrons jamais les oublier, a-t-il déclaré, nous comblerons leur absence, mais leur sang a suscité un réveil dans plusieurs générations. À la fin du message de Cheikh Zakzaki récemment, j'ai vu une exposition d'images de martyrs devant laquelle se trouvait l'image de Sardar Rasem Soleimani et de nombreux autres martyrs, dont les martyrs du crime nigérian de Zaria. Nous chérissons la mémoire de nos martyrs et du martyr Rasem Soleimani et cela continuera tant que nous chérirons la mémoire des martyrs Abba Abdullah al-Hussein. Ces mots étaient courts pour exprimer notre dévotion aux martyrs et à leur sang, qui, si Dieu le veut, ce sang ne sera jamais gaspillé. Que Dieu protège et soutienne la République islamique d'Iran et ses dirigeants Sayyid Ali Khamenei, et que Dieu renforce notre unité et notre intégrité, et que Dieu mette fin à ce chemin avec l'avènement de Hazrat Mahdi, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Les hymnes nationaux de l'Iran et de l'Irak ont été joués hier soir lors d'un rassemblement de dizaines de milliers d'Irakiens à l'occasion de l'anniversaire du martyr des généraux Rasem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandes à l'aéroport de Bagdad et près de la base militaire américaine. Au Burkina Faso, le combat contre le terrorisme continue d'arrache-pied. Le fait de perdre des éléments renforce plus la détermination des Burkinabés pour combattre le terrorisme et leurs alliés occidentaux. L'armée burkinabé a mis hors d'état de nuire 29 terroristes à Gomboro dans des combats contre des individus armés. Ce 1er janvier, selon un communiqué de l'état-major des armées, ces terroristes qui tentaient de s'en prendre à des positions d'unités militaires et de gendarmerie à Gomboro se sont donc heurtés à une riposte et surtout contre-offensive féroce des forces de défense et de sécurité. Des positions d'unités militaires et de gendarmerie en contrôle de zones dans la localité de Gomboro, donc dans la province du Sourou, régions de la boucle du Mouhoun ont été donc la cible d'une attaque menée par des individus armés. Les combats ont causé des blessures à 11 militaires qui ont été pris en charge. La riposte et la contre-offensive des unités ont permis, cela dit, de neutraliser 29 terroristes et de récupérer un important lot de matériel de combat, parmi lesquels de l'armement, des moyens roulants et des moyens de communication. Tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le chef d'état-major des armées félicite les unités pour ces résultats obtenus. Il les encourage à maintenir les efforts afin de ramener la quiétude dans la zone en proie à la menace terroriste. De plus, selon l'agence d'information Burkina, donc l'armée burkinabé ont mis donc aux arrêts l'un des présumés leaders terroristes de la province du Soum. Il était recherché et soupçonné d'avoir participé à la préparation de l'attaque de Inata, qui a coûté la vie, pour rappel, à près de 60 personnes le 14 novembre 2021 dans le nord du Burkina. Ce présumé chef terroriste a été appréhendé avec 8 de ses camarades vers Mentao, a ajouté l'AIB, parlant des sources concordantes. Le Burkina Faso se bat bec et ongle pour sa vie, sa souveraineté et également celle du continent africain. L'union de la population burkinabé et surtout sa détermination à vouloir libérer le pays du joug du terrorisme et du néocolonialisme devient un véritable exemple pour le continent. Lassina Zerbo, le Premier ministre, a présenté ses vœux et son message est plus que clair. Malgré les adversités auxquelles nous faisons face aujourd'hui, à savoir les désastreuses attaques terroristes récurrentes, l'épidémie du coronavirus, la fragilité de l'environnement socio-économique, nous devons rester confiants en l'avenir parce que l'avenir appartient au peuple qui ne baisse pas les bras. Sachons ensemble vivifier la solidarité en ayant de fortes pensées pour nos compatriotes singulièrement affectés dans ces moments difficiles. Les FDS, les VDP, les PDI, ainsi que les agents de santé au chevet des malades. Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a également déclaré vendredi soir avoir chargé le nouveau gouvernement de nettoyer les zones infestées par les groupes armés terroristes qui endeuillent le pays depuis 2015 maintenant. Il a également souligné l'importance de consacrer la réconciliation nationale et de renforcer la lutte contre l'impunité et la corruption. Sur le plan sécuritaire, l'année 2021 a connu une multiplication des attaques terroristes qui recommande l'urgence de renforcer les capacités techniques, tactiques et opérationnelles des unités, a-t-il souligné. Kaboré a en outre salué l'engagement des organisations non gouvernementales qui travaillent sur le terrain pour apporter l'aide aux populations confrontées aux dures réalités de la situation actuelle. Le président burkinabé a indiqué qu'au cours de l'année 2021, en dépit des contraintes endogènes et exogènes, l'économie burkinabé s'est bien comportée en affichant un taux de croissance de 2%, un des meilleurs des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Burkina Faso passe maintenant à l'offensive pour sécuriser un pays. Il est clair qu'une alliance régionale reste le remède le plus fort, mais c'est surtout l'union de la population et l'implication de celle-ci dans le processus de sécurisation du pays qui non seulement ramène la sécurité, mais en plus dissuade les futurs fauteurs de troubles potentiels. L'avenir du Burkina Faso est bel et bien entre les mains du peuple et visiblement, tout le monde s'en est bien rendu compte maintenant. Nous vivons actuellement dans un monde dans lequel ce sont les pays qui veulent réellement combattre le terrorisme et réinstaurer la paix qui sont sanctionnés. Effectivement, suite aux assises nationales de la refondation qui ont recommandé la prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans, les autorités de la transition du Mali ont soumis à la CEDEAO un chronogramme des élections. Selon ce chronogramme, sur lequel les chefs d'État de l'organisation régionale doivent statuer le 9 janvier prochain, la transition en cours au Mali prendra fin en janvier 2026, au grand désarroi des Occidentaux, en particulier de la France et des États-Unis. Les participants se sont prononcés pour la prolongation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes, donc, et par conséquent permettre des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans et c'est l'une des recommandations phares des Assises nationales de la refondation tenue au Mali du 11 au 30 décembre 2021. Au lendemain de la fin des assises, un projet de résolution sur le chronogramme de la transition a été élaboré par le panel des hautes personnalités. Dans ce document publié sur les réseaux sociaux, on indique que sur les 20 régions administratives du Mali, soit 65%, se sont prononcés spontanément pour la prolongation de la transition avec une durée variable d'une région à l'autre et une moyenne des durées proposées de 32 mois. Selon le même document, tenir les autorités de la transition redevables de la réalisation des résolutions indispensables à la refondation de l'État, la sécurisation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire, la matérialisation des réformes politiques et institutionnelles, dont la mise en place effective d'un organe unique de gestion des élections, conduire les élections et d'en assurer les conditions nécessaires de transparence, de crédibilité et d'acceptation des résultats par tous. Les arguments avancés pour justifier la nécessité de la prolongation de la transition. Les assises ont ainsi décidé que le gouvernement prenne le temps qu'il faut pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national avant d'aller aux élections. Aussi ont-elles décidé que la durée de la transition sera de 5 ans au plus pour compter donc du 1er janvier 2022 afin de réunir les meilleures conditions d'élections libres, transparentes, crédibles et acceptables par tous, précise le projet de résolution sur le chronogramme de la transition. Dès le lendemain de la fin des assises, une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est rendue à Accra, avec pour objectif soumettre le chronogramme de la fin de la transition à Nana donc Akufo-Addo, le président de la République du Ghana, président également en exercice de la CEDEAO. C'est un chronogramme d'une durée de 5 ans qui a été soumis au président en exercice de la CEDEAO, a déclaré le ministre Abdoulaye Diop au micro donc de l'ORTM. Selon plusieurs sources, la commission dépêchée par le président de la transition à Accra pour rendre compte donc les recommandations issues des assises nationales de la refondation au président de la CEDEAO a proposé un chronogramme comme suite. Donc, la révision donc constitutionnelle prévue en décembre 2023, les élections territoriales en juin 2024, les élections législatives et sénatoriales en mai 2025 et l'élection présidentielle en janvier 2026. Selon le ministre Diop, le chronogramme de 5 ans est une proposition et est discutable. Et c'est cette question qui a été présentée, mais il y a toujours des discussions possibles pour pouvoir vérifier le contenu des options qui ont été arrêtées, a-t-il laissé entendre. Aussi a-t-il indiqué que les éléments étaient donc qui est présenté, y compris un chronogramme, feront l'objet de partage et d'examen par l'ensemble des chefs d'État. La proposition de la prolongation de la transition ne vient pas des autorités de la transition, mais des Maliens, selon le ministre Abdoulaye Diop. Nous avons fidèlement apporté le résultat par rapport aux assises nationales de la refondation, par rapport à la durée de la transition, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que le Mali reste ouvert, disponible pour les discussions avec la CEDEAO afin de pouvoir arriver à une solution consensuelle. Nous espérons qu'en retour, la CEDEAO pourra venir pour pouvoir engager des discussions techniques avec nous pour voir dans quelle mesure nous pourrons avancer avec une solution consensuelle et l'adoption d'un chronogramme qui puisse consacrer le retour de notre pays dans un ordre constitutionnel normal, a déclaré le chef de la délégation dépêchée par le président de la transition à Accra au Ghana. Les chefs d'État de la CEDEAO qui ont émis des sanctions individuelles contre les autorités de la transition et qui menacent d'imposer les sanctions économiques contre le Mali se réuniront en sommet extraordinaire le 9 janvier à Accra. Ils statueront sur la situation au Mali, particulièrement sur le chronogramme de la fin de la transition qui leur a été soumis. Mais avant, une délégation conduite par le médiateur pour le Mali, Goodluck Jonathan, sera à Bamako ce mercredi selon un communiqué de l'organisation. La commission donc de la CEDEAO prend note de la communication le 31 décembre d'un projet de chronogramme sur les élections transmises par une délégation malienne conduite par le ministre chargé des Affaires étrangères à son Excellence, donc M. Nana Akufo-Addo, le président du Ghana. Les médias occidentaux se sont donc empressés de mettre cette décision donc de la transition malienne sur le compte de la volonté des autorités de transition de vouloir à tout prix rester au pouvoir. Une description assez grotesque de leur part, surtout lorsque tout le monde sait que le peuple malien demande à ce que les autorités restent au pouvoir pour non seulement qu'elles aient le temps de sécuriser le pays, mais le Mali a également une autre tâche à accomplir, c'est d'empêcher la France ou les États-Unis de créer la confusion dans la précipitation et qu'ils placent un de leurs hommes au pouvoir. C'est surtout pour cette raison que le peuple malien reste prudent et demande la prolongation des autorités de transition. La panique se fait voir du côté occidental qui veut absolument fixer une date rapide, donc pour les élections au Mali. Mais ce que les Occidentaux n'ont pas encore compris, car aveuglés par leur arrogance, c'est que Bamako informe, il ne demande pas la permission.
Pilier des échanges extérieurs sénégalais, le port de Dakar traite jusqu'à 95% des volumes commerciaux du pays. Dans une vision à long terme, le projet portuaire de Ndayan a été pensé pour soutenir la croissance continue du trafic. Le directeur exécutif du projet portuaire de Ndayan, Meissa Baye, a rapporté mercredi 29 décembre que la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Ndayan se fera le 3 janvier 2021 en présence du président sénégalais Macky Sall. Dans un briefing fait à la presse locale, Meissa Baye a insisté sur le volet industriel intégré dans l'architecture de cette plateforme qui permettra de rompre avec les fonctions classiques habituelles des ports et mettra en valeur le potentiel industriel du pays. Le président camerounais Paul Biya annonce la création de 3 nouvelles universités d'État. Pour réduire les disparités infrastructurelles dans l'enseignement supérieur entre les régions, le président camerounais vient de décider de la création de 3 nouvelles universités d'État, portant le nombre total de ces établissements dans le pays à 11. Au Cameroun, les régions de l'Est, du Nord et du Sud auront bientôt chacune une université d'État. La nouvelle a été annoncée ce 31 décembre par le président Paul Biya lors de son discours de fin d'année à la Nation. Le président a fait savoir que cette décision a pour objectif de réduire les disparités infrastructurelles entre les régions. Il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le chemin tandis que d'autres progressent, a expliqué le président camerounais. L'Afrique du Sud annonce la fin de la 4e vague de la pandémie de COVID-19 et allège les mesures restrictives. L'Afrique du Sud, qui a subi plusieurs vagues de la pandémie de COVID-19, à l'instar des autres pays du monde, commence à voir chuter le nombre de contaminations dans le pays. Ces 3 dernières semaines, ce nombre a baissé de 4700 en moyenne. L'Afrique du Sud a annoncé la fin de la 4e vague de la pandémie de COVID-19 et l'allègement des mesures restrictives. L'annonce a été faite ce jeudi 30 décembre 2021 par un communiqué de presse publié sur le site internet de la présidence. Cette annonce, qui intervient après une réunion des structures en charge de la gestion de la pandémie, est principalement motivée par la baisse du nombre de nouveaux cas détectés. Le discours à la Nation prononcé par le président ivoirien Alassane Ouattara vendredi 31 décembre a mis en exergue les acquis du projet gouvernemental Une Côte d'Ivoire solidaire qui a débuté en cette année 2021 avec en prime plusieurs réalisations pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le projet gouvernemental baptisé Une Côte d'Ivoire solidaire, qui vise à consolider les acquis des 10 dernières années et à accélérer le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, a enregistré pour sa phase initiale des retombées positives dans des domaines aussi variés que divers que sont l'énergie, l'eau potable, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur ainsi que la santé. Le gouvernement ivoirien envisage avant la fin 2025 l'électrification de toutes les localités du pays.